On va passer à la table ronde suivante, qui s'intitule donc État, traite et proxénétisme. Donc une autre problématique toujours liée au thème que nous avons déjà abordé, dont l'animateur sera Jean-Raphaël Bourges, que vous avez déjà entendu tout à l'heure comme intervenant. Et que donc j'appelle sur plateau Lilian Mathieu, Guy Parent et Lamia Missaoui qui vont participer à cette table ronde.
On va donc commencer cette table ronde sur, qui est intitulée État, traite et proxénétisme. Table ronde qui nous a paru très important aux organisateurs et au conseil scientifique dont je fais partie au cours de cette journée, où il était question effectivement d'aborder la question de la pornographie et de la prostitution. Ici, il sera question de prostitution sous un angle dépassionné, mais pour autant sans omettre aussi, on va dire, la face noire du travail sexuel. On va parler du travail forcé. Donc, pour ce faire, on va écouter Lilian Mathieu, d'abord, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, au centre Max Weber et l'ENS de Lyon. On va écouter aussi également Guy Parent, qui est ancien chef de la brigade de répression du proxénétisme, tout juste retraité, si je...
Tout à fait, il y a 10 jours maintenant.
Voilà, très, très jeune retraité, qui nous fait la métier d'être ici. Et enfin, on écoutera Lamia Missaoui, qui est sociologue au laboratoire Printemps CNRS et maîtresse de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin. Ce que je vous propose, c'est que d'abord les intervenants à tour de rôle nous fassent un petit exposé et on pourra débattre ensuite ensemble et enfin vous laisser des questions dans la salle. Donc tout de suite, ce sera donc Lilian Mathieu pour un titre, je ne sais pas si c'est le bon, « La prostitution saisie par les politiques publiques ». Je vous cède la parole.
En tout cas, c'est le titre qu'on m'a suggéré. C'est là-dessus qu'on m'a demandé de plancher. Donc, je vais faire mon possible. Alors, tout d'abord, en introduction, dire que quand on évoque les politiques publiques en matière de prostitution, l'attitude la plus classique, mais aussi la plus paresseuse, consiste à distinguer trois régimes juridiques qui sont, on pourrait les réciter en chœur pour ceux qui connaissent un peu le sujet, le prohibitionnisme qui consiste à interdire purement et simplement la prostitution et qui est en application en Chine par exemple et dans la plus grande partie des États-Unis. D'autre part, le réglementarisme qui considère la prostitution comme un mal nécessaire qu'il convient d'organiser pour mieux l'encadrer et la contrôler. Et ça serait aujourd'hui la politique adoptée par la Hollande et l'Allemagne. Et puis enfin, l'abolitionnisme, qui à l'inverse ne se résout pas à l'existence de la prostitution et qui cherche à la faire disparaître sans pour autant pénaliser celles et ceux qui l'exercent. Et ici, c'est la Suède qui est généralement convoquée comme la référence. Alors, ce que je voudrais essayer de montrer dans ce bref exposé, c'est que cette classification, aujourd'hui, elle n'a plus guère de sens et que, pire encore, elle empêche d'identifier les redéfinitions en cours des politiques en matière de prostitution. Et en l'occurrence, continuer à penser les politiques de prostitution à l'aide de ces catégories, ça empêche de voir qu'en dépit de tout ce qui les sépare, et beaucoup de choses les séparent, elles convergent vers des pratiques similaires et des objectifs communs. Alors, première chose, ces catégories, elles n'ont plus guère de sens, ou plus exactement, leur signification s'est singulièrement troublée au fil de leur mobilisation dans les controverses contemporaines. Alors, tout d'abord, on va prendre la catégorie de réglementarisme. Historiquement, le réglementarisme, c'est la politique qui a été adoptée en France au tournant des 18e et du 19e siècle et qui a été exportée dans une grande partie de l'Europe à la faveur des conquêtes napoléoniennes. Ce réglementarisme, il fait de la prostitution une activité licite mais réglementée. Les femmes qui l'exercent sont tenues de se faire enregistrer sur des registres municipaux et de se soumettre à des examens gynécologiques réguliers, puisque la motivation principale du dispositif, c'est de juguler ce qu'on appelait à l'époque les maladies vénériennes. Et la maison close était privilégiée dans un tel système parce qu'elle permettait de maintenir les prostituées dans un lieu clos, qu'il était facile de contrôler. Alors, c'était un système tout entier entre les mains de la police et d'inspiration exclusivement coercitive. Les femmes qui exerçaient la prostitution sans être inscrites ni dépistées par les médecins étaient significativement appelées des insoumises et elles s'exposaient à des peines de prison si elles étaient identifiées. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique actuellement en vigueur en Hollande. Alors, la Hollande autorise effectivement des maisons closes, des établissements de prostitution, mais elle ne vise pas, sa législation actuelle, ne vise pas à soumettre les prostituées à une autorité médicale ou policière. Elle vise à les reconnaître comme des travailleuses, comme des employées qui disposent de droits qu'elles peuvent opposer à leur patron. Et si, par ailleurs, le sida a donné une nouvelle actualité à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, c'est en misant sur l'information et la responsabilisation individuelle, mais certainement pas sur une obligation de dépistage. Donc le réglementarisme tel qu'il est invoqué aujourd'hui dans les controverses, il a surtout le statut d'insulte qui vise à disqualifier ceux qui prétendent, qui défendent une reconnaissance du métier de travailleur ou de travailleuse du sexe. Alors, le même flou, on le rencontre lorsqu'il s'agit de l'abolitionnisme, un terme dont la signification, elle aussi, a beaucoup évolué, puisqu'entre les origines et aujourd'hui, ce n'est pas l'abolition de la même chose qui est revendiquée. L'abolitionnisme, historiquement, apparaît en Angleterre dans la seconde moitié du XIXe siècle lorsque, dans ce pays, on commence à instaurer des mesures réglementaristes avec donc enregistrement et surveillance sanitaire des prostituées. C'est une mesure qui fait scandale à la fois pour des raisons féministes et progressistes, c'est-à-dire que les prostituées sont soumises, ce qui indigne les gens, c'est que les abolitionnistes, c'est que les prostituées sont soumises à l'arbitraire policier, et puis elles sont les seules à être contrôlées par les médecins alors que leurs clients, évidemment, bénéficient d'une complète impunité. Alors, donc des motifs progressistes et féministes, mais aussi des motifs puritains, parce qu'on considère qu'en réglementant la prostitution, l'État reconnaît et organise le vice, c'est-à-dire une sexualité extra-conjugale. Donc ce que revendiquent les premiers abolitionnistes, c'est l'abolition de la réglementation de la prostitution, mais pas celle de la prostitution elle-même. D'ailleurs, un abolitionniste français, Paul Gemmeling, disait dans les années 30, je cite, « Nous ne sommes pas assez naïfs pour nourrir une telle ambition ». Fin de citation. Alors, l'abolitionnisme, il gagne en puissance au tournant des 19e et du 20e siècle. Ça devient un mouvement international qui est soutenu par la Société des Nations puis par l'ONU. Et il triomphe d'une certaine manière en 1949 avec la promulgation d'une convention dite pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. C'est ce texte, cette convention que la France a ratifiée en 1960 et qui depuis constitue le socle légal de la prostitution dans notre pays. Alors, ce texte, il fonde une politique abolitionniste, mais au sens originel du terme, puisqu'il abolit toute réglementation en matière de prostitution. Notamment, il interdit d'obliger les prostituées à se faire enregistrer, se soumettre à un contrôle sanitaire spécifique, et il interdit les établissements de prostitution. Alors, dans ce cadre abolitionniste, mais une nouvelle fois, j'y insiste, au sens originel du terme, la prostitution n'est pas interdite. Mais elle n'en est pas moins considérée négativement, puisque le préambule de cette convention stipule, je cite, que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de prostitution, sont incompatibles avec la dignité humaine et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté. Alors, dans ce cadre, le statut de la prostitution, il relève un peu de ce que André Breton a appelé le poisson soluble. Je m'explique. Puisque la prostitution n'est pas interdite, on est libre de l'exercer. Mais si concrètement on entend exercer cette liberté, on manifeste par là même qu'on a un problème d'ordre psychologique, social ou économique et donc qu'on a besoin d'aide. Ce que présuppose cet abolitionnisme, c'est qu'une personne dotée de libre arbitre ne peut pas consentir à la prostitution. Il faut que s'exerce sur elle une contrainte quelconque pour l'amener à cette extrémité. Ce pourquoi l'abolitionnisme suppose, d'une part, l'existence d'un travail social spécialisé en mesure de prévenir l'entrée dans la prostitution et, d'autre part, de réinsérer celles qui ont été amenées, contraintes à se prostituer. Le second volet de cet abolitionnisme, c'est un volet davantage policier, et là, je m'en remets à mon collègue qui va prendre la parole juste après moi. Alors ça, c'est l'abolitionnisme au sens premier du terme, tel qu'il s'est constitué historiquement et tel qu'il a été mis en œuvre en France à partir de 1960. Mais aujourd'hui, ce même terme d'abolitionnisme, il désigne une autre politique, celle qui vise à abolir la prostitution elle-même, en pénalisant cette fois les clients qui, c'est vrai, jusqu'à présent, étaient rarement pris en considération. Alors, cette politique, elle se réclame du féminisme en posant que la prostitution, elle est en soi, en elle-même, dans son essence même, une violence sexiste exercée par les hommes contre les femmes et donc qu'il faut sanctionner les auteurs de cette violence, c'est-à-dire les clients. Le raisonnement également, un volet plus pratique, il est qu'en pénalisant la demande, on réduira l'offre. Les clients seront dissuadés par les peines auxquelles ils s'exposent. Du coup, les prostituées verront leur activité périclitée et seront amenées, comme en douceur, à se trouver une autre source de revenus. Comme vous le savez, c'est une politique qui a été initiée en Suède et c'est celle qui est actuellement envisagée dans notre pays. J'y reviendrai dans quelques instants. Ce qui est donc revendiqué dans cette approche, ce n'est plus l'abolition de la réglementation, mais celle de la prostitution elle-même, en interdisant d'y avoir recours. Mais du coup, c'est bien une interdiction de la prostitution qui est envisagée. Le fait qu'on pénalise la demande et pas l'offre, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. C'est bien la transaction prostitutionnelle qui est renvoyée dans l'illégalité. Et cette conception de l'abolitionnisme revient, de fait, à un prohibitionnisme, même si c'est pour des motifs très différents de ceux qui fondent les interdictions de la prostitution aux États-Unis ou en Chine. Mais on en revient à une interdiction, donc à une prohibition. Donc voilà, j'espère avoir montré que le triptyque très scolaire avec lequel j'ai commencé, réglementarisme, abolitionnisme, prohibitionnisme, était devenu tellement flou qu'il ne permettait pas, ou plus, de comprendre les politiques contemporaines en matière de prostitution. Alors maintenant, je voudrais insister sur un autre facteur de confusion, qui est que les politiques actuellement mises en œuvre dans différents pays, et qu'on a l'habitude d'opposer, ont en fait beaucoup de points communs et visent globalement les mêmes objectifs. Alors ces objectifs, ils sont au nombre de deux. D'une part, éliminer la prostitution de l'espace public, où elle fait désordre, et d'autre part, se débarrasser des migrantes indésirables. Alors si on prend tout d'abord l'exemple de la Hollande, ce n'est pas une politique aussi laxiste ou libérale qu'on le croit souvent. Les établissements de prostitution sont légaux, mais ils doivent obtenir au préalable une licence qui est accordée par la mairie. Une municipalité qui ne souhaite pas de bordel sur son territoire, l'établissement, peut refuser d'accorder la moindre licence. Elle peut aussi, et c'est d'ailleurs fréquemment le cas, n'accorder de licence que dans un quartier bien délimité et ainsi cantonner spatialement la prostitution en laissant les autres zones urbaines libres de cette activité. Ce qui correspond au premier objectif, donc de nettoyage de l'espace public. On cantonne dans des lieux, dans des zones bien précises, et tout le reste est purifié. Ensuite, en Hollande, la prostitution est considérée comme un métier comme un autre, qui bénéficie des protections du droit du travail, mais à condition d'être exercée librement. Toute forme de contrainte à la prostitution est rigoureusement interdite et sévèrement punie. Et parmi les critères qui permettent de distinguer la prostitution dite libre de celle dite forcée, il y a le statut sur le territoire, c'est-à-dire que des étrangères en situation irrégulière sont considérées par définition comme des prostituées forcées, puisque effectivement leur statut les rend davantage vulnérables. Et donc elles ne peuvent pas exercer ce métier, puisque c'en est un en Hollande, de manière légitime. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que cette assimilation entre étrangères en situation irrégulière et victimes d'une contrainte à la prostitution n'est pas spécifique à la Hollande, mais qu'elle appuie également la politique française en la matière, ce qui confirme déjà les convergences entre des politiques qu'on a l'habitude d'opposer. Et on remarquera surtout qu'on a un excellent moyen de se débarrasser ainsi des migrantes en situation irrégulière en les excluant de ce domaine d'activité. Alors si on passe maintenant à ce qui est supposé être l'opposé de la politique hollandaise, c'est-à-dire celle de la Suède, ou plutôt la politique suédoise telle qu'elle est actuellement mobilisée et posée comme modèle en France. Alors là aussi, je viens de le dire, toutes les prostituées étrangères sont a priori définies comme des victimes de la traite. Dans les discours officiels, on a évoqué les rapports parlementaires tout à l'heure. Dans ces rapports, on ne cesse d'invoquer le chiffre de 80% d'étrangères sur les trottoirs et de 80% de victimes de la traite des êtres humains, avec le présupposé évidemment que ce sont les mêmes, vu que c'est le même chiffre. Alors, en tant que victimes de la traite, elles sont supposées avoir été amenées sur les trottoirs français contre leur gré ou par tromperie, et donc ne rêver que d'une seule chose, rentrer dans leur pays qu'elles auraient jamais dû quitter. Et d'ailleurs, à aucun moment, il n'est envisagé de leur accorder un titre de séjour durable. Elles ne peuvent prétendre qu'à un titre temporaire, et qui plus est, sous condition. En l'état actuel, le temps que leur proxénète soit jugé, ce qui suppose qu'elles en ont nécessairement un, et qu'elles acceptent de le dénoncer, et puis dans le projet tel qu'il est actuellement débattu, c'est à condition qu'elles arrêtent de se prostituer, puisqu'il n'y a aucune raison de garder sur le territoire quelqu'un qui mettrait autant de mauvaise volonté à se conduire en bonne victime. Alors, le second volet de la loi qui est actuellement en suspens au Sénat, c'est bien sûr la pénalisation des clients, qui est destinée à remplacer le délit de racolage passif, donc instauré en 2003. Alors, ce racolage passif, il avait permis de nettoyer les rues des grandes villes en repoussant la prostitution dans des zones isolées de la périphérie, au bord des routes et dans les sous-bois. Et il est à craindre que si la pénalisation des clients était appliquée, bah, elle aurait le même effet, puisque bah, dans les deux cas, le délit, ça serait le même. C'est-à-dire une interaction entre un client et une prostituée qui serait constatée par la police, avec la seule différence que dans un cas, c'est la prostituée, le racolage, c'est la prostituée qui se prend le PV, dans le cas de la pénalisation, c'est le client. Mais l'effet, il reste le même, c'est-à-dire déplacer cette interaction là où elle n'est pas susceptible d'être constatée par la police, une nouvelle fois dans des zones isolées de la périphérie, du bord des routes et dans les sous-bois, avec tous les dangers que ça représente pour les prostituées. Alors, bon, j'aurais pu évoquer d'autres politiques dans d'autres pays qui sont souvent juste des modulations par rapport à ce canevas dominant. Mais ce qui me semble intéressant de relever pour conclure, c'est la dimension avant tout pénale de ces approches de la prostitution. On a, et c'est particulièrement le cas en France, au niveau politique, un discours très compassionnel à l'égard de prostituées définies comme des victimes, mais qui dit victime dit nécessairement coupable, et c'est la police qui est prioritairement sollicitée, que ce soit pour réprimer les migrations irrégulières ou les usages déviants de l'espace public. La prostitution n'est plus envisagée en regard de facteurs structurels, comme l'état du marché du travail ou les inégalités économiques et sociales entre hommes et femmes, et à ce titre qui serait redevable d'une politique de justice sociale. Et en fait, on est en train de passer d'une politique, d'une appréhension de justice sociale à simplement une appréhension en termes de justice pénale. Alors, pour finir, je ne résiste pas au plaisir d'une citation, vraiment très brève. Voilà. Je cite, « Le texte que je signe aujourd'hui nous aidera à enquêter et à poursuivre les trafiquants d'êtres humains. Mais nous ne pourrons pas mettre les criminels hors de combat tant que nous ne serons pas confrontés au problème de la demande. Nous enquêterons sur les clients et nous les poursuivrons, ces adultes sans scrupules qui s'attaquent aux jeunes et aux innocents. » Alors, de qui cette ferme profession de foi abolitionniste ? Pas de Najat Vallaud-Belkacem, mais de quelqu'un qui n'est pas forcément connu pour son féminisme et son progressisme, puisqu'il s'agit de George Bush. Ce qui veut dire que dans ce passage de la justice sociale à la justice pénale, un de ces noms, c'est aussi néolibéralisme. Et c'est aussi autour de ces notions-là que se recomposent les politiques publiques et les débats en cours autour du statut de la prostitution. Voilà, je vous remercie.
Merci à Lilian Mathieu et à cette très jolie citation pour finir. Vous n'avez pas précisé si c'était Georges Bush père ou fils ?
Fils.
Le plus intelligent, donc.
L'honneur du bretzel.
Exactement. On va laisser la parole maintenant à Guy Parent, donc, qui va nous parler des politiques publiques en matière de lutte contre le proxénétisme.
Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme on m'a présenté, de 2004 à 2009, je dirigeais la brigade de répression du proxénétisme en police judiciaire à Paris. Et donc, quand j'ai pris mes fonctions, donc, c'était pour moi une brigade spécialisée. Et donc, c'est là que j'ai eu à m'intéresser donc, de près à la prostitution et puis au proxénétisme. Donc, et ça a été une grande surprise. Une grande surprise quand j'ai découvert ces deux mondes. Hein. Enfin, ces deux mondes qui sont pas forcément liés, mais qui sont souvent étroitement liés. Alors bon, la prostituée, donc bon, j'ai découvert bon que c'était pas évident. C'était pas évident pour une prostituée d'échapper à des contrôles policiers, à toutes sortes de. Quand on se penche sur la prostituée, donc on s'aperçoit que beaucoup de gens s'intéressent à elle. Hein, donc, que ce soit bon, le proxénète, bien sûr, et puis le policier, le juge, l'avocat, le psychologue, le sociologue, le journaliste, l'écrivain, enfin, toutes sortes de personnes. Donc, beaucoup de gens s'intéressent à elle, mais quand il faut ensuite lui donner des droits, un statut, enfin, se pencher sur ce qu'elle peut, ce qu'elle pourra en avoir comme intérêt, comme avantage, ben là, il n'y a plus personne, quoi, finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, elles sont totalement démunies et livrées à elles-mêmes, ou parfois, donc, à des réseaux, à des proxénètes. Donc, ensuite, bon, il y a eu cette loi, donc, qui est citée, la loi du 18 mars 2003, qui sanctionne hein, la prostitution. Enfin, c'est un racolage passif, mais le fait, donc, pour une femme d'être présente dans un lieu où elle offre donc ses services sexuels, donc c'est réprimé. 2 mois de prison, 3 500 euros d'amende. C'est quand même cher payé. Et donc, effectivement, il y a eu des effets. Alors, au départ, si vous voulez, l'application du texte, c'était pas tant pour dissuader les femmes de se prostituer, c'était pour les cantonner, donc comme ça a été justement dit, c'était les cantonner dans un espace limité. Une femme qui offre ses services sexuels rue Saint-Denis, par exemple, elle n'était pas verbalisée. Par contre, si elle offrait ses services à l'aplomb d'une rue, d'un immeuble, et qui ne connaissait pas de prostituée, mais qui avait été donc choisie par la prostituée, donc ça pouvait gêner les riverains qui se plaignaient. Donc le riverain appelle les flics arrivent, et finalement, c'est une contravention. Bon, voilà, ça sera donc une sorte de taxe qui sera payée par la prostituée, mais la prostituée reste sur place. Et elle continue, donc par sa présence, donc elle génère bien sûr du bruit, parce qu'il y a des clients qui viennent, les portières qui claquent, des gens qui viennent lui proposer toutes sortes de choses, donc ça fait du bruit. Et donc, c'est vrai que la contravention en soi n'était pas suffisante pour dissuader, enfin pour gérer ce problème de nuisance. Et donc, c'est vrai que la question donc s'était posée pour les politiques, donc et on a choisi directement donc le délit. Voilà. Alors les magistrats donc ne punissent toujours pas d'ailleurs le racolage de manière sévère. Généralement, c'est plutôt un rappel à la loi, et il n'est pas rare qu'une femme puisse avoir dans le mois une dizaine de rappels à la loi, donc alors, par contre, s'il y a une infraction connexe qui est relevée, donc ça peut être effectivement une infraction au titre de séjour, donc là, effectivement, la punition pouvait donc être effectuée. Donc, voilà, cette loi, donc, pour l'instant, existe toujours. Donc, on parle d'une remise en cause, mais c'est vrai qu'elle n'a pas encore été abolie. Donc, cette loi qui punit la prostituée existe toujours, et la loi dont on faisait allusion sur la pénalisation du client donc n'existe pas encore, puisqu'il y a des discussions, et on ne sait pas effectivement quels peuvent être les effets de cette loi. Si on observe l'exemple suédois, puisque c'est eux qui ont innové en la matière, je ne suis pas convaincu que ça donne des résultats satisfaisants. Parce que l'individu et la nature humaine est ainsi faite que quand quelque chose est instauré, aussitôt détourné et contourné. Donc on va avoir d'autres prestations. Concernant la prostitution, donc, comme je vous l'ai dit, je m'y suis intéressé. J'ai pu observer donc qu'il y avait des flux, des trafics. Des femmes étaient trafiquées, et les principaux flux donc viennent encore la prostitution africaine, donc là elle est plutôt féminine, parce que c'est une chose également qui m'a quand même aussi surpris, c'est que j'avais du proxénétisme, j'avais une vision un peu dépassée, celle un peu d'un homme déjà, avec les cheveux gommés et puis des pompes bicolores. Et en fait, le proxénète, c'est plutôt une femme, majoritairement c'est une femme. Donc, le proxénétisme africain, il y a donc, on se doute bien d'où ça vient, donc les explications, la misère. Et ces femmes donc sont acheminées en Europe par des réseaux. Souvent donc ce sont avec l'accord des parents qui s'enrichissent sur la prostitution. Et ces femmes donc qui viennent, en fait, elles sont prises en main par des réseaux, des mamas qui contrôlent leur prostitution. Et quand elles touchent l'argent de leurs clients, eh bien cet argent ne leur revient pas ou peu. Et ça va alimenter, donc il y a un retour, et puis il y a des gens qui s'enrichissent dessus, hein, sans compter donc ces femmes donc souvent sont dans un état donc physiquement, moralement, en pleine détresse, hein, donc et c'est vrai que il y a un aspect sordide qui est très dérangeant pour nous donc quand on faisait nos affaires donc en fait des affaires de proxénètes, hein, proxénètes africains, donc on avait surtout bien sûr en garde à vue des africaines, des mamas qui étaient vraiment sans pitié, hein, sans pitié pour ces femmes. Mais ce qui était paradoxal, c'était que ces femmes donc prostituées qui étaient victimes de ces réseaux et qui étaient victimes de ces mamas, un jour, elles devenaient elles-mêmes mamas à l'égard des nouvelles arrivantes. Donc le système, la prostitution africaine pour nous est un peu désolante et un peu navrante. C'est parce que c'était un puits sans fond. Arrivaient donc des jeunes prostituées et puis quelques années plus tard, ces mêmes prostituées, on les reprenait, donc on les avait comme proxénètes. La prostitution chinoise, elle est essentiellement économique, vient donc d'une contrée chinoise, c'est un peu toujours la même, c'est le Zhejiang, où on voit donc arriver ces chinoises qui sont souvent de souche paysanne, hein, qui connaissent rien à la prostitution, ils savent même pas ce qu'est un préservatif. Et dans leur prostitution, dans leur racolage, donc c'est vrai que elles ne sont pas très féminines. Hein. Elles ont souvent des physiques ingrats. Et puis elles ont innové sur un type de prostitution, enfin un mode opératoire qui est celle donc d'avoir un cabas, d'avoir un sac à la main, donc des marcheuses, hein, donc. Pour donner l'illusion en fait qu'elles sont là devant un commerce ou qu'elles ont quelque chose à vendre ou à acheter. Donc, et là, on va les retrouver par exemple à Belleville, on les retrouve aussi au métro. Ça m'échappe. Donc, oui, on les trouve donc dans des endroits où il y a toujours un côté grégaire, hein, donc on va les retrouver ensemble. Et là, donc, leur prostitution aura lieu donc, dans des appartements ou dans des hôtels. Où là, donc, bien sûr, elles seront à leur tour exploitées. Hein, donc on va trouver toutes sortes d'exploitations, hein, évidemment. Il y aura le marchand de sommeil, il y aura le propriétaire ou le locataire d'un appartement qui va sous-louer, et ainsi de suite. Donc c'est... Et là, donc, pour les plus belles d'entre elles, on va dire, hein, donc celles-là, elles auront la possibilité d'aller dans des salons de massage. Donc, vous savez qu'à Paris, il y a pléthore de salons de massage. Hein, et vous pouvez être à peu près sûr que si vous avez à côté de vous, à proximité, un salon de massage asiatique, vous pouvez être sûr qu'à 90% ou même plus, il va y avoir de la prostitution. Alors... Là aussi, les massages, donc en Asie, il n'est pas rare quand les salons de massage ou les endroits où on peut se faire masser sont fréquents. On vous propose souvent donc une finition sexuelle, hein, masculine. C'est un peu la norme. On considère que c'est un peu la continuité d'un massage. Ensuite, il y a la prostitution donc sud-américaine. Alors là, donc surtout donc des travestis, hein, des trans, les homosexuels. On va retrouver donc bien sûr au bois de Boulogne. Donc ces personnes sont acheminées par des véritables agences de voyage qui offrent donc un kit donc de transport. Et puis, pour certains d'ailleurs, sont même transformés. Hein. Il y a des piqûres, des opérations qui font que quand ces personnes vont arriver, c'est plus donc des créatures qui sont mi-hommes, mi-femmes. Et donc accueillies à Paris par des gens, donc un réseau, et ensuite installées dans des hôtels. Donc là. C'est toujours pareil, hein. C'est l'argent qui peut en être soutiré, donc sera ensuite restitué à la famille, hein, puisque au départ c'est toujours pour la famille. Donc, et là, c'est vrai que ces gens-là, à mon avis, c'est encore pire que les autres prostituées, puisque elles doivent donc se nourrir, elles doivent payer leur chambre, elles doivent payer également et rembourser ceux qui les ont envoyées, et puis ensuite elles doivent aussi pour des raisons de santé et puis d'esthétique, elles doivent aussi donc rester avenantes. Donc et c'est là qu'on voit donc vraiment une misère qui est encore plus grande que les cas que j'ai déjà évoqués. Ensuite, il y a les femmes qui viennent des pays de l'Est. Donc, alors les pays de l'Est, donc là, je dirais que les proxénètes là sont plutôt majoritairement masculins. Hein, donc, les pays de l'Est, pour nous, ça a toujours été ça a toujours nécessité encore une plus grande attention, parce que dans les pays de l'Est, donc leur culture donc est plutôt basée souvent sur la violence, sur la contrainte, sur la force. Il n'y a pas de respect des êtres humains ni des femmes. Donc et là, donc c'est vrai pour nous, on sait que quand on trouve des prostituées donc des pays de l'Est sur la voie publique, on sait que ça peut pas répondre à un choix volontaire. Donc voilà. Alors après, bien sûr, il y a aussi les traditionnelles. Les traditionnelles, donc celles-là, ce sont celles qui se prostituent, je dirais, de manière plus volontaire. Généralement, elles n'ont pas de proxénète. Et si elles en ont un, c'est parce qu'elles l'acceptent. Et c'est parce que, bon, il y a une relation privilégiée avec leur proxénète. Voilà. Autrement, bien sûr, au niveau pénal, donc toutes ces sanctions, enfin tous ces comportements sont sanctionnés. Ça peut aller donc du minimum de 7 ans d'emprisonnement à la réclusion à perpétuité, dès lors qu'il y a des violences et des coups qui sont portés de manière sévère. Voilà ce que je voulais vous dire sur le regard que j'ai pu en avoir durant ces 5 années.
Merci beaucoup. Alors on va tout de suite poursuivre avec Lamia Misaoui, donc sur une intervention titrée « Transmigration européenne, les mutations cosmopolites des travailleuses du sexe ».
Merci beaucoup. Donc ça va être tout à fait en continuité avec ce qui vient d'être dit, mais avec peut-être une vision probablement un peu différente, puisqu'elle y a vraiment, elle vient de l'intérieur, disons, à partir d'enquêtes ethnologiques et anthropologiques. D'abord, je voudrais signaler que je ne travaille pas spécialement sur la question de la prostitution, mais mes terrains, qui sont essentiellement orientés vers l'immigration internationale de populations pauvres, a rencontré à plusieurs reprises cette question de la prostitution. Et c'est en 2002 que des recherches que nous effectuons avec Alain Tarius, un de mes collègues avec qui je travaille beaucoup, sur les transmigrants moyen-orientaux dans l'espace Schengen, que nous avons repéré pour la première fois tout au long des territoires des circulations, ces travailleuses du sexe. La question nous a préoccupés sans qu'on soit dans la mesure de monter une recherche sur cette chose. Et puis enfin, il s'agissait, on le repérait doucement depuis 2002 jusqu'à 2007, où vraiment on a pu organiser une recherche claire autour de cette question, puisqu'elle commençait à devenir très présente et très visible. Et l'idée, c'était de comprendre la place de ces femmes dans le vaste réseau, le vaste mouvement transmigratoire européen. Et pour ce faire, nous avons particulièrement travaillé sur ce qu'on appelle des clubs prostitutionnels du Levant espagnol. Bon, probablement que tout le monde connaît ici, parce que ce sont des clubs qui sont assez médiatisés, à dire vrai. Il y a tous les jours un petit peu, une émission à la télé parlant de ces clubs. C'est tellement fascinant et ça rapporte beaucoup de faire des émissions télé sur cette question-là. Donc on a travaillé sur les clubs prostitutionnels du Levant espagnol, même si on a dû faire, pour aller un peu plus loin dans la compréhension, des allers-retours fréquents entre la Bulgarie et l'Espagne, pour mieux comprendre justement une question qui nous préoccupait beaucoup, qui était à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, les étapes successives avant d'arriver à la destination plus ou moins finale, parce qu'en réalité elle n'était pas vraiment finale, qui était la Jonquera, là où se retrouvent les fameux clubs prostitutionnels à la frontière franco-espagnole, et qui était en fait l'étape la plus longue pour les filles qui pouvaient arriver jusqu'à là. Et en fait, le point de départ, c'était le point de naissance, de départ, de compréhension de ce phénomène migratoire se trouvait essentiellement dans le pourtour de la mer Noire. Et c'est là que nous avons effectivement commencé à repérer, en parallèle avec les réseaux d'entrepreneurs migrants afghans et marocains en particulier, des femmes qui circulaient de plus en plus en nombre et de façon de plus en plus massive. Alors ces femmes, on en a rencontré 120 avec qui nous avons fait des entretiens assez longs en réalité. Et en tout cas, ce qui en ressort, c'est qu'elles sont... Et ça, j'aime bien le dire à chaque fois, puisque c'est un phénomène assez global. Elles sont albanaises, serbes, bulgares, moldaves, romaines, ukrainiennes, russes, abkhazes, géorgiennes, etc., etc. Et plus elles avancent, plus il y a d'autres nationalités qui peuvent rejoindre l'équipe. Moi, je me suis particulièrement penchée sur ces groupes-là. Et ces femmes, ce qui était intéressant dès le départ, quand on les avait rencontrées, elles déclaraient de façon très claire leur intention de poursuivre leur migration professionnelle vers l'Europe du Nord avant de revenir dans leur milieu d'origine. Alors vous imaginez un petit peu la situation. Je pars, je travaille et je fais du travail de sexe et mon but c'est de revenir dans le milieu d'origine. Autant vous dire que ça ne s'est pas toujours vérifié, cette question-là. Nous avons donc affaire là, et c'est ça qui est intéressant, à une transmigration à étapes longues. Et ces filles passent environ une année à la mer Noire, qui est, donc, comme je le disais tout à l'heure, le point de départ. Au Levant espagnol, elles passent plusieurs années, et en Europe du Nord, la destination finale, exactement, même si... objectivement, on peut critiquer les politiques de l'Europe du Nord. Eh bien, pour ces filles, c'est une destination absolument recherchée, puisqu'il semble pour elles que ce soit des lieux où il y a un peu plus de possibilités de faire des activités sans tout le temps être obligé de se cacher. Donc, l'idée, c'est d'arriver vers l'Europe du Nord. Elles font un cheminement long pour y arriver, et sur le chemin, elles traversent la France. Alors vous imaginez le choc, le passage de la Jonquera, qui est la frontière franco-espagnole où il est autorisé de se prostituer, à la France, où il est complètement interdit de le faire. Donc il y a toute une organisation de jeux de cache-cache pour aller un peu plus loin. Et l'idéal, c'est de ne pas rester trop longtemps en France, parce que ce n'est vraiment pas un lieu accueillant pour cette population. Alors, pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, retenons simplement le nombre de 10 000 femmes qui sont mobilisées pour le travail du sexe chaque année autour de la mer Noire. Sur ces 10 000 femmes, il y en a 1 000 qui sont ce qu'on appelle des estafettes occasionnelles et saisonnières, russes et ukrainiennes, pour les ports de Varna et d'Istanbul, de Samsun, de Trabzon, de Sochi. 1 000 restent à demeure dans des nombreux ports de la mer Noire après quelques rotations, et 2 000 rejoignent les Émirats, le Liban et l'Arabie Saoudite, qui est une destination assez prisée en réalité aussi. Et sur la voie espagnole, celle qui est quand même la plus déterminante, destination principale des transmigrantes, en tout cas c'est une destination extrêmement citée, 2 500 femmes organisent leur déplacement sur plusieurs semaines ou même plusieurs mois vers cet Eldorado européen. C'est ironique quand je dis ça, évidemment. Pour illustrer ce que je viens de dire très rapidement, je vais vous raconter le très court récit de jeune femme Et ça répondra peut-être à des questions de tout à l'heure où on disait qu'on n'interrogeait jamais les prostituées elles-mêmes et qu'on était toujours là à parler à leur place. Et ces femmes, je synthétise vraiment beaucoup, hein, bien sûr, mais elles expliquent à leur façon, mais de façon très claire, comment cela s'est passé pour elles. Donc il s'agit de quatre très courts récits. Magdalena, qui est une Ukrainienne, bien sûr, les prénoms ne sont pas vrais. Hein. C'est des faux, sauf un que je garde. Magdalena est ukrainienne, elle est originaire d'une petite ville située entre Kiev et Odessa. Elle est l'aînée de la famille, ses trois sœurs vivent au foyer et ses parents sont des employés municipaux. Ce sont des militants opposés à l'influence russe. Elle a 18 ans au moment du départ. Irina et Sofia sont les deux jeunes filles d'un couple d'agriculteurs macédoniens, très pauvres, orthodoxes pratiquants, vivant à proximité de la frontière bulgare. Leur séjour sur la mer Noire s'effectuera à l'âge de 17 et de 16 ans et leur transmigration prostitutionnelle sera commune jusqu'en Espagne. Sardinella, c'est la seule qui a son vrai prénom, enfin que je garde le prénom, fille d'agriculteur catholique du nord d'Albanie, partira à 17 ans directement vers l'Italie du Sud afin de rejoindre une congrégation religieuse. Alors, je commence par Magdalena qui me raconte un peu son affaire. Elle dit, 18 ans, mes diplômes professionnels pour l'entretien de collectivité en poche et pas de travail. Une occasion au mois de mai, faire la saison sur un bateau touristique russe qui circule entre mai et octobre d'Odessa à Sochi, qui est un port touristique russe, Trabzon en Turquie, tout près de la Géorgie, et Varna en Bulgarie. Les étapes duraient 7 jours dans des hôtels moyens, 2 jours dans des petits ports intermédiaires, le personnel était hébergé à bord. Il y avait, donc évidemment je synthétise beaucoup, il y avait des femmes, c'est toujours elle qui parle, il y avait des femmes de partout autour de la mer Noire, même des Roumaines et des Géorgiennes. Il était évident qu'elles se prostituaient dans les ports d'escale avec des clients des croisières, mais aussi avec des hommes des ports, des touristes. Pendant les longues escales, j'allais manger avec elles, des marins, des cargos à qui venaient aussi, et des passeurs de matériel du Golfe, kurdes, iraniens et surtout afghans. On se mélangeait et on devenait parfois des amis. On était un monde à part, le peuple des ports et de la mer. Au début, j'avais le tournis, l'impression de me noyer. Mais vite, j'ai compris que c'était pour moi la vraie liberté. On parlait toutes les langues, on parlait toutes les langues à la fois, avec un fond de broken English, vous savez très, enfin, le broken English, c'est un anglais, un très mauvais anglais parlé entre les pour que les étrangers puissent se comprendre entre eux. Moi aussi, je parle un très mauvais broken English d'ailleurs. C'est la raison, c'est comme ça que j'ai pu les comprendre. J'ai commencé à travailler, elle continue. J'ai commencé à travailler à l'escale de Trabzon comme les autres filles que j'avais vues faire à Sochi et à Soukhoumi, qui travaillent aussi sur les bateaux de touristes pour des salaires de misère. Au fur et à mesure des croisières, des copines les plus débrouillardes partent pour le Golfe ou l'Europe de l'Ouest, vers des maisons de passe de luxe. D'autres stoppent en route dans un port avec un homme qui leur plaît ou pour travailler sur place dans tout ce qui peut t'héberger dans un port. Comment aurais-je pu rentrer chez moi après ça, se demande devant moi Magdalena. Irina me dit par la suite, enfin, donc l'autre personne, me dit aussi, c'est devenu sérieux quand on a fait le stage de 3 mois sur le cargo mix qui faisait Burgas et Trabzon. Nous étions dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes à Sofia. Nous avions commencé de temps à autre à monter les touristes dans notre chambre. Le travail pour le service du soir dans le restaurant me rapportait que 60 euros chaque mois à chacune. Et c'est ce que nous faisions payer à un touriste pour une nuit. Rapidement, nous avons cessé d'être des gourdes, à rechercher des touristes riches. Nous avons appris à aller avec tout le monde parce qu'ils étaient plus ou moins sympathiques au port et sur les bateaux. On a appris à parler avec n'importe qui. On attendait avec impatience les 2 jours à Trabzon où on gagnait de plus en plus et au fur et à mesure qu'on connaissait du monde. Quand on est rentré à Sofia, le stage fini, notre logeur nous a proposé un appartement avec accès direct à la rue et s'est chargé de nous trouver un départ pour l'Espagne. Comment savait-il, disait Irina. Ensuite, Sardinel, après 1989, mes parents avaient renoué avec la tradition familiale catholique. Ils me firent donc baptiser cérémonieusement par un prêtre italien. À mon prénom chrétien, on ajouta celui de Sardinelle. Un peu par dérision, celui-là même qui allait me rester. J'étais grande, très maigre, avec une petite tête et des yeux ronds. Ni bonne grillée trop sèche, ni bonne salée trop longue, ni sardine, ni anchois. C'est une sardinelle, avait dit le prêtre. Et je suis restée ainsi, avec mon surnom que j'aimais bien. C'est à 15 ans que l'envie me vint de partir pour l'Italie. Ici, dans le nord de l'Albanie, nous sommes tous très liés avec la région de Tarente et de Brindisi. Les religieux et les bonnes sœurs qui viennent chez nous nous attirent là-bas pour des travaux saisonniers ou définitifs. Arrivée à Tarente, j'ai été en noviciat, une année dans un grand appartement bourgeois aménagé en couvent. Une vie tranquille, mais un peu triste. L'Italie était dehors et moi j'étais dedans. Si tu vois ce que je veux dire. J'avais 18 ans et on m'a donné, lors d'une fête, des papiers du résident. Mon bonheur était fait, celui de ma famille aussi. Mais le soir même, je m'enfuyais dans les rues de la Tarente, précipitant dans le malheur tous ceux qui, au même moment, me fêtaient. Dans cette ville, lorsque tu es en rupture avec le religieux, les bourgeois et ta famille, tu n'as pas vraiment le choix. C'est là que j'ai rencontré Emilio, qui travaillait de temps en temps avec un pêcheur qui lui fourguait un peu de mauvaise coque et des poissons invendables pour le payer. Autant te dire qu'Emilio, il a tout de suite été pour moi. Il était petit et gros, alors tu vois le couple. J'ai trouvé un petit boulot à la criée et nous avons vécu comme des rats au fond du trou. Et là, il s'agissait bien de ratage, tu vois, un virage raté au-dessus d'une falaise. Et depuis 7 ans, je n'en finis pas de chuter vers le fond et je ne sais quel précipice j'allais. Emilio et son pêcheur, et je vais bientôt terminer, conseillés par des petits mafieux locaux, m'expliquèrent qu'il serait bon, peut-être pour tous, que je travaille 3 ou 4 heures jusqu'à minuit en me vendant dans la grande barque de pêche qui possédait une minuscule cabine. Tu n'as pas besoin de t'allonger. Les clients, ils préfèrent que tu fasses ça à genoux, me dit le pêcheur en riant. Et comme il m'aimait bien, ils m'expliquèrent que je ferais la passe avec de la coque. Cette histoire de coque, c'est les mafieux qui nous l'avaient demandé. Pour plus tard, ça pourra servir, disait-il. Bon, effectivement, la coque servira beaucoup par plus tard, puisque dans ces circulations de filles, et les avancées et celles qui sont le mieux repérées à la mer Noire par ces personnes qui repèrent de façon absolument efficace les jeunes filles, celles qui doivent là. Donc, distribuent et dispatchent les destinations des jeunes filles selon des critères qui me sont parfois absolument obscurs, liés parfois à la beauté, à la débrouillardise, mais aussi à des choses que je ne maîtrise pas totalement. Certaines sont directement appelées à aller dans les Émirats du Golfe, d'autres sont choisies pour aller en Espagne, dans les clubs prostitutionnels de haut standing. Et donc, ce sont celles qui sont choisies pour aller en Espagne, qui, dans leur trajet, qui parfois peut durer un petit peu longtemps, accompagnées toujours de personnes absolument protectrices envers elles, de façon très proche d'ailleurs, là aussi je suis ironique bien sûr, souvent je le dis, je suis désolée parce que j'ai l'impression qu'on peut ne pas me comprendre, et ces personnes protectrices font toujours une halte en Italie, et cette halte en Italie est un moment très important qui permet aussi de clarifier les destinées des filles, et notamment cette étape, les femmes apprennent à maîtriser leur future double fonction à la fois de prostitution et de dealer de drogue, parce que le but pour les personnes qui amènent les filles vers l'Espagne, c'est quand même qu'ils récupèrent d'autres clients, notamment en leur vendant quelques petits grammes de coke, et on échange d'abord au début un gramme de coke, on échange d'une passe plus ou moins gratuite, quoi. Juste 30 secondes pour reprendre un terme qui a été dit tout à l'heure sur les femmes qui blanchissent elles-mêmes leur argent. En réalité, les prostituées de la Jonquera, elles servent elles-mêmes à blanchir l'argent des gros trafiquants de psychotropes, et d'ordinaire on déclare un nombre de femmes présentes sur les lieux espagnols, notamment parce qu'on a le droit de déclarer les femmes présentes, on cache une grosse majorité de femmes pour payer moins d'impôts. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on déclare plus de femmes qu'il y en a. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une façon, là encore, de blanchir les quantités de sommes faramineuses qui tournent beaucoup plus en lien avec la drogue qu'en lien avec la question de la prostitution. Et évidemment, j'y vais vraiment à la hache et je m'arrête là parce que je ne peux plus me permettre. Je suis désolée.
Merci beaucoup. Alors, merci à tous trois pour ces interventions qui finalement se complètent et se répondent en partie. On a pu voir que d'un côté, il y a des volontés politiques qui se traduisent plus ou moins dans le droit. En France, on a eu il y a quasiment 3 ans, jour pour jour, une résolution parlementaire qui n'a pas de force réglementaire, mais en tous les cas, qui est une résolution très forte qui place la France à l'exemple de la Suède comme abolitionniste officiellement. Alors, ça, effectivement, ça ne répond pas forcément au terme et ça ne permet pas forcément de décrire, mais en tous les cas, c'est revendiqué comme tel. C'est un texte qui avait été présenté conjointement par l'UMP et le PS. Pas voté à l'unanimité, discuté au sein des familles politiques, mais en tous les cas, il y a une affirmation politique de penser que la prostitution, dans son ensemble, indistinctement, devait être abolie, et notamment à l'instigation de certains courants féministes qui ont voix au chapitre auprès des politiques. Il faut le rappeler aussi, hein, c'est aussi des choses très concrètes, hein, c'est-à-dire que on a entendu plusieurs fois, et ses oreilles siffleront certainement encore dans ces 2 jours, Najat Vallaud-Belkacem, elle représente une forme de féminisme, et on a un féminisme un peu officiel en France qui a voix au chapitre. Ce n'est pas le seul, loin de là. Et ce colloque en est la preuve. Mais en tous les cas, il faut traduire cette volonté dans les faits et dans la loi. Il faut traduire donc les faits dans la loi, puisque cette volonté a été marquée, cette résolution a été votée. Alors après, ça a été rappelé, ça avait déjà commencé auparavant, hein, cette loi dès 2003, avec la loi dite Sarkozy, et d'autres choses qui sont en préparation actuellement. Mais en tous les cas, on est dans une situation en France où on ne distingue pas le travail sexuel, qu'il soit forcé ou qu'il soit revendiqué comme volontaire. Et j'aurais voulu savoir, alors ma première question va être vers Guy Parent, est-ce que sur le terrain, mais vous-même vous avez utilisé hein, l'idée qu'on pouvait se prostituer volontairement, enfin plus ou moins, est-ce que déjà sur le terrain, avec l'arsenal législatif existant, est-ce que la police déjà fait cette distinction elle-même, mène des actions policières selon ce qu'on va y voir. Vous avez dirigé la BRP, qui est la Brigade de répression du proxénétisme, surtout, donc qui vise évidemment pas à les prostituées en tant que telles, mais les souteneurs, les réseaux, etc. Et donc déjà savoir comment vous arriviez à distinguer tout ça, comment ça se met en place pratiquement, et quel est l'écart entre la volonté affichée des politiques, notamment de l'abolitionnisme, mais pas que, et l'efficacité réelle, en fait, et finalement, je vais parler plus de celles qu'on va dire qui sont dans un travail forcé, pour le coup. Est-ce qu'on arrive vraiment à sortir des femmes de ces situations? Et si on arrive à les sortir, à quelles conditions?
Alors, dans la prostitution, donc, c'est vrai qu'il y a, donc, je parlais tout à l'heure des réseaux, et c'est donc ces femmes qui sont soumises à des réseaux de proxénètes. Donc on est dans la traite des êtres humains, hein, dans la TEH. Donc là, c'est vrai que je dirais que c'est pas difficile de les reconnaître. Hein. Il y a des pratiques, il y a des encadrements faits par ces proxénètes. Et donc, on arrive vite à repérer le réseau. Après, il faut le confondre. Donc, on a des techniques pour ça. Et donc là, il faut dire que dès lors qu'on est sous la contrainte, c'est vrai que la répression est quand même importante. Hein. Les juges savent sanctionner. Parfois, nous avons affaire à une prostitution qui s'apparente au réseau, mais avec des procédés qui sont plus subtils, on va dire. Hein. C'est notamment les escortes. Ces femmes qui veulent de l'argent facilement, hein, comme ça a été évoqué par notre voisine, qui veulent de l'argent rapidement parce qu'elles ont des modèles autour d'elles de femmes qui sont parties en Occident, qui sont revenues, elles étaient riches. Donc, si c'est pour quelques passes, pourquoi pas. Et donc, on a des femmes qui raisonnent comme ça. Donc, elles se mettent volontairement entre les mains donc d'un réseau qui sont des réseaux d'escorte. Alors, c'est très subtil parce que là, le proxénète, il propose à cette femme donc de rentrer dans le système des prestations. Ils font des belles sur Internet, des beaux sites. Et puis ensuite, ces femmes sont envoyées et encadrées. Hein, donc, dans des villes, elles vont rester une dizaine de jours. Et donc, il y a des clients qui sont manifestés. Et pendant ces 10 jours, donc, on va avoir des relations sexuelles. Elles seront encadrées par quelques femmes plus anciennes. Et cet argent donc, va repartir par moitié hein, donc, à ceux qui organisent la prostitution. Et ces femmes-là donc, sont consentantes quelque part. Hein, elles acceptent le principe donc, de se soumettre à la prostitution. Donc, après, il y a des femmes qui sont plus indépendantes, donc ce qu'on appelle les traditionnelles. Hein, donc elles sont depuis longtemps ancrées dans la prostitution et elles, finalement, donc, elles peuvent complètement s'émanciper de proxénètes. Hein, et pour elles, donc, c'est vraiment... C'est un tout autre discours parce que je dirais même à les entendre, à les écouter, finalement, elles en font un métier. Puis elles, pour certaines, vont vous dire, moi, je préfère ça, j'aime ça, je préfère faire cette prostitution plutôt que d'être encadré par un employeur avec des horaires, etc. etc. Donc, et puis finalement, je fais ce que je veux quand j'ai envie de faire des dépenses, tout ça. Donc elles voyagent, elles se transportent en taxi, elles ont une vie indépendante. Et cette indépendance donc, qu'elles ont à travers ce système de prestations sexuelles, en fait, Donc c'est vrai que elles sont par rapport aux autres types de prostitution. Hein, donc c'est vrai qu'elles sont à part. Et c'est vrai qu'on comprend que effectivement il y a des prostituées qui s'épanouissent dans ce type d'activité. Voilà. Donc ça m'a surpris bien sûr. Hein, mais quand on discute avec elles, et ça a été mon métier pendant ces 5 ans. Donc et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment dans la prostitution il y a vraiment un paysage multiple. Multiple et surprenant. Et finalement, donc, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Hein. Il convient de discuter avec ces femmes. Et moi, je dois dire que j'ai appris vraiment à les respecter et puis à les comprendre. Et voilà, j'ai de bonnes relations avec elles. Je continue d'ailleurs. Parce que c'est vraiment des femmes qui méritent d'être connues. Et ce que je regrette, c'est vrai que c'est que on les met toujours à la marge, alors que ce sont des femmes tout à fait honorables. Hein, et vraiment, elles ont vraiment beaucoup de qualités humaines.
Merci. J'aurais une question là qui va être peut-être, mais pas nécessairement plus adressée aux sociologues que sont mes voisins de droite. On a souvent avancé des chiffres, des fois un peu fantaisistes. Rappelez-vous, en 2006, la Coupe du Monde en Allemagne, il y avait eu tout un élan où on parlait d'une importation de 50 000... les chiffres, c'était 50 000 femmes, dont il y avait eu même tout un débat au Parlement européen. On avançait le chiffre avant, hein, même que ça se passe. Il allait y avoir 50 000 femmes, dont 40% d'Africaines. Il y avait quelque chose de très ciblé, très chiffré, d'ailleurs qui faisait tiquer beaucoup de monde, parce que par définition, tout ce qui est hors du légal ou à la frontière, tout ce qui est borderline, est pour le coup difficile à quantifier, à mesurer. En tous les cas, difficile d'en faire des chiffres officiels. On peut avoir les chiffres de la police, mais qui ne sont pas forcément le reflet d'une réalité. Après, il y a le travail des universitaires. Comment aujourd'hui, et la Miami Saoui avait même évoqué quelques chiffres, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut déjà appréhender globalement le phénomène du travail sexuel revendiqué et entendu comme tel? Là, je m'éloigne de Paola Tabet. Donc, comment déjà le quantifier globalement, et à l'intérieur, comment arriver à quantifier, à distinguer, et on l'a vu avec l'intervention de la Miami Saoui, c'est-à-dire que ce ne sont pas des frontières poreuses, il n'y a pas une prostitution forcée et une prostitution qui serait totalement libre. On a bien vu que là, pour le coup, on est encore dans une affaire de continuum, il y a des choses qui sont dans l'entre-deux, mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Si on n'a pas de chiffres, est-ce qu'on peut avoir au moins une impression du phénomène? Bien sûr.
En tout cas, les chiffres sont faciles à...
Près du micro.
Pardon. Les chiffres sont assez faciles en Espagne, puisqu'il existe des vrais clubs. Et donc, on peut vraiment compter. En tant que sociologue, on rentre et on compte, quoi. Enfin, c'est compliqué, hein, bien sûr, mais on compte. Et on passe... parce que dans les clubs, ce qui est compliqué, c'est que certaines sont à l'intérieur, d'autres sont à l'extérieur. Parfois, c'est un peu des systèmes de punition. Celles qui sont à l'extérieur sont moins appréciées que celles qui sont à l'intérieur. Et donc, pour l'extérieur, c'est difficile parfois de les compter. Mais là encore, on compte nous-mêmes. On monte notre propre échantillonnage. Et par rapport à la question de la mer Noire, là, on a été aidé beaucoup par... des chercheurs universitaires de Sofia qui travaillaient déjà sur la question de la prostitution, et évidemment tous les travailleurs sociaux qui pouvaient donner des informations. Alors, très paradoxalement, les personnes qui nous ont le plus aidés, ce sont les policiers et les douaniers qui, par rapport à la question de la frontière, évidemment, ils sont extrêmement bien placés. Et les policiers, sans être forcément dans une position de moraliste par rapport à la question, ils ont quand même une compétence dans cette affaire-là. Et notamment pour l'Espagne, ils savent très bien le nombre de personnes, enfin, approximativement, évidemment, le nombre d'affaires de personnes qui sont prostituées ou enfin qui font du travail de sexe ou pas. Alors, ce qui est très compliqué dans l'affaire des filles des pays de l'Est, c'est qu'on a affaire à des filles, une fille qui se prostitue, mais qui est venue avec plusieurs membres ou du village ou de la famille qui l'accompagnent et qui eux font d'autres boulots qui sont tout à fait entre guillemets clean, mais qui sont tout à fait au courant du boulot que fait celle qui a permis qui leur a permis de venir, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, mais on y arrive quand même, hein. On n'est pas juste. La question de l'entrée-sortie, je la trouve vraiment très intéressante que vous avez posé, que tu as posé tout à l'heure. Et effectivement, moi j'ai parlé beaucoup de l'entrée. Dans le milieu, dans le métier. Alors, c'est plus ou moins fait avec plus ou moins de brutalité, plus ou moins de choix, plus ou moins de... En tout cas, les filles, même si parfois j'ai l'impression que ça a été quelque chose d'un peu violent, un peu dur, elles renversent quand même pas mal la situation et elles arrivent à positiver c'est marrant qu'une me dise, par exemple, pour moi, c'est une question de liberté. Me prostituer, je retrouve de la liberté, quoi. Enfin, effectivement, je trouve ça très intéressant. Et c'est pour ça que j'avais envie de dire ces discours qui me paraissent tout à fait en opposition avec... Alors même que là, il y a du proxénétisme très clair, hein. Il y a vraiment les Géorgiens qui maîtrisent totalement la situation et la mise à la drogue et aussi une vraie maîtrise des filles. Il n'empêche que le discours des filles, alors on ne va pas dire qu'elles sont idiotes, parce que je pourrais dire ça aussi, évidemment. Elles sont idiotes, elles ne sont même pas capables de voir qu'elles sont totalement dominées. Il me semble qu'elles se débrouillent avec cette histoire-là aussi et qu'elles trouvent une solution, puisque le but final, apparemment, pour elles, pour celles que j'ai rencontrées, c'est d'en sortir. Et donc les portes de sortie, par exemple, Sardanelle a investi les économies de 7 années de travail de sexe dans une entreprise qu'elle tient avec son frère au pays, en Albanie. Sophia et Irène ont ouvert un truc d'esthétique, enfin un salon d'esthétique en Macédonie. Même il y en a une qui s'est mariée, son mari qui était tout à fait au courant de ce qu'elle a fait dans sa circulation, son futur mari du coup l'a attendu tranquillement. Ils ont fait un enfant, etc. Pour Magdalena qui a trouvé quelque chose de beaucoup plus classique. Elle a épousé un petit vieux espagnol pour l'entretenir, et elle a fait venir toute sa parentèle ukrainienne sans aucune hésitation. Enfin voilà, donc il y a quand même des sorties, pas forcément la prostitution. Ce que je trouve intéressant, c'est que la prostitution, dans certains cas, en tout cas dans les cas que j'ai rencontrés beaucoup, c'est une étape, une phase dans son existence, et c'est une phase presque extrêmement consciente,
assumée.
Et même certaines filles, extrêmement cyniquement, me disent, et là, plutôt du côté arabe, me disent, tu parles, moi, avec mon mari, il me tabasse, il me force à faire, elle dit d'autres mots, à faire l'amour avec, elle dit pas à faire l'amour avec moi, et c'est gratos. Et en plus, il me tabasse en plus, là, je fais payer les gens, quoi. Et mon corps, je fais payer un service de sexe. Et donc, finalement, elle valoriserait presque la prostitution par rapport à une vie conjugale. Oui, c'est... Enfin, c'est, et c'est pour tout vous dire, cette situation-là, je l'ai rencontrée très fréquemment sur des catégories de population qui sont tout à fait différentes des pays de l'Est, notamment sur des Marocaines qui migrent clandestinement vers l'Espagne et qui passent un temps long coincées un petit peu en Espagne avant de basculer en France parce que c'est leur destination favorite. Et là, elles font... pendant un petit moment ce métier pour aller plus loin, disons. Voilà.
Lyon,
Alors sur les chiffres, effectivement, on a aboli la réglementation, donc on a aboli l'enregistrement. Donc c'est en France, hein, en tout cas, une activité informelle sur laquelle l'État n'a en tant que tel pas... Donc il n'y a pas de comptabilité. Bon, alors on a... Donc on n'a pas de chiffres officiels de cette activité qui est laissée dans l'indécision. Alors effectivement, on a des chiffres de la police, mais qui sont pas... Alors, qui sont le reflet d'une réalité, mais qui sont le reflet de la réalité de la pratique policière. C'est-à-dire que... on a, mais comme on sait pour n'importe quelle statistique de cet ordre-là, que ce soit le nombre de cambriolages ou de viols ou de tous les délits, on a ce qui est déclaré ou ce qui a été constaté par la police en fonction des priorités des services de police. Donc effectivement, lorsque, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a tant de personnes étrangères dans les statistiques policières, c'est aussi parce qu'il y a une attention particulière à la condition des étrangers en situation irrégulière dans notre pays. Alors, tu disais qu'on s'éloigne de Paola Tabé. Je ne pense pas. Je pense qu'on est sur cette question du dénombrement. Dans la question qui est aussi au cœur du travail de Tabé, de la qualification de pratique d'échange économico-sexuel, c'est-à-dire comment on va comptabiliser, définir quelqu'un comme prostitué. Est-ce qu'une personne qui a une fin de mois difficile, qui va accepter de faire une fellation au voisin contre le fait qu'il paye la note du supermarché, on va la comptabiliser comme prostituée? Ou est-ce qu'on va comptabiliser que les gens qui sont sur le bord du trottoir, qui se font payer en espèces sonnantes et trébuchantes, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Donc on est aussi dans un problème de définition de qu'est-ce qu'on va retenir, qu'est-ce qu'on va retrancher dans la manière de catégoriser une activité. Hein. D'où, évidemment, toutes les ambiguïtés d'une tentative de mesure. Alors, évidemment, sachant qu'on a de la difficulté à mesurer, à quantifier, ça laisse ouvert à tous les fantasmes, d'où évidemment tous ces chiffres absolument abracadabrantesques qui sont communément signalés pour grossir la menace, etc., sans jamais se préoccuper de la manière dont des chiffres sont repris, tournent en boucle et comment ils sont produits.
D'accord, merci. Je vais peut-être laisser, parce qu'il nous reste très peu de temps, la place à quelques paroles dans la salle. Je voulais juste apporter une petite précision, enfin compléter un peu ce qu'avait dit Guy Parent, qui a évoqué très rapidement la question des personnes trans et de la prostitution des personnes trans, qu'il faut quand même évoquer aussi, où beaucoup d'associations justement de personnes trans dénoncent aussi le fait de la difficulté des changements de papier, etc., qui précarisent la situation des personnes trans et qui souvent sont obligées d'avoir recours au travail sexuel, pour le coup, parce qu'elles n'ont ils et elles n'ont plus forcément le choix, en n'ayant pas des papiers d'identité qui sont conformes à leur identité de genre. Donc du coup, ça les pousse beaucoup, plus le coût, effectivement, pour les migrants, le coût de la transition, que ce soit sur la question des opérations ou des hormones. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi une question qui mériterait d'être soulevée. Je voulais juste apporter cette précision. Pour dire aussi que c'est quelque chose qui mériterait à part entière une vraie réflexion, et malheureusement on est pris par le temps. S'il y a des questions, là je vous laisse un peu de temps.
Oui, bonsoir. Donc j'aimerais savoir auprès de monsieur Guy Parent, au niveau du, comment dire, des personnes qui donc par rapport à la loi, l'évolution qu'il y a actuellement, est-ce qu'au niveau de la prévention et des personnes qui sont dans la prostitution, est-ce que la loi va réellement porter un préjudice direct? Et selon vous, quelle serait la loi qu'il faudrait appliquer? Est-ce qu'il faudrait réouvrir les maisons closes, ou quelle serait précisément la loi qui permettrait une meilleure prévention selon vous?
C'est une réponse que je ne pourrais pas vous apporter, parce que c'est extrêmement difficile et délicat. Ce qui est sûr, c'est que les maisons closes, donc je sais que beaucoup beaucoup qui s'intéressent au phénomène prostitutionnel se disent pourquoi ne pas consigner la prostitution dans les établissements maisons closes comme ça existe ailleurs. Alors, ça a existé en France. Pendant 146 ans, on a connu les maisons closes. Alors, qu'est-ce qu'il en est résulté? Au départ, on dit, on va permettre à ces femmes d'être dans ces établissements pour diverses raisons. Alors, lesquelles? Alors, leur liberté, on peut en douter. Leur hygiène, on peut en douter. Et leur sécurité, on peut en douter. Parce que elles sont consignées là, donc, et avec interdiction d'en sortir. Concernant leur santé, eh bien, on sait très bien que on connaît la nature humaine, hein, je veux dire, on voit mal les médecins venir consciencieusement examiner ces dames et puis repartir tout aussi tranquillement sans qu'il y ait une quelconque pression monétaire. Et c'est pareil d'ailleurs pour les flics en charge de surveiller ces femmes. Donc c'est la corruption pour obtenir l'ouverture de la maison, pour la surveiller, pour la contrôler, etc. Donc en fait, ça devient une pompe à fric, ni plus ni moins, et ça provoque même un appel donc à la traite des êtres humains. Et c'est pour ça que les pays actuellement qui ont le plus fort attrait au niveau de la traite de la TEH, c'est notamment donc l'Espagne, l'Allemagne et la Hollande. Voilà.
Moi, j'aimerais parler de la pénalisation des clients, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, elle existe déjà en France pour les mineurs. Donc, est-ce qu'elle a un effet?
Alors, la pénalisation du client, elle existe pour les mineurs et pour les personnes donc particulièrement vulnérables. Alors, dans la notion de particulièrement vulnérable, donc le législateur a cité la personne en état, la femme en état de grossesse ou maladie mentale, mais ça peut être physique, ça peut être de toutes sortes de choses. Et puis on peut même extrapoler aussi une personne qui est dans la plus grande précarité et qui est également en situation vulnérable. Donc là, après, on part, il faut examiner les jurisprudences. Donc effectivement, dans ces cas particuliers, donc effectivement, on a voulu protéger les mineurs, et cette population précaire. Mais donc, je pense que c'est pas tout à fait dans la pénalisation du client. Là, la pénalisation du client, c'est beaucoup plus général quand même. Oui,
Il y a combien de France par an, parce que ça on a un chiffre, hein, puis ça c'est simplement les statistiques officielles, elles doivent être trouvables. Combien de personnes ont été pénalisées en France, par exemple cette année ou chaque année, vous savez pas, vous avez un ordre d'idée, c'est 10, c'est 3, c'est 1.
Ça je ne peux pas vous dire, puisque la brigade de répression du proxénétisme donc privilégie la lutte contre le proxénétisme, et là donc on parle de prostitution. La prostitution, c'est quelque chose qui échappe un peu donc à la lutte contre le proxénète, hein, puisque dans le système que nous connaissons, donc la prostituée est une victime. Donc nous, on la considère comme telle. Donc ça, ce serait, je dirais que c'est pas, ça va demeurer quand même marginal, parce que là, donc mon collègue de la brigade des mineurs, donc que je rencontrais très régulièrement, donc quand on lui demande s'il y a une forte prostitution des mineurs à Paris, hein, on cite des chiffres qui sont fantastiques des fois, enfin, comme à la gare du Nord où il y aurait. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas, énormément de populations mineures qui soient prostituées. Hein. Ça demeure à la marge. Il y a beaucoup plus de mineurs qui sont exploités donc pour la mendicité, pour le vol, etc., etc., plutôt que pour la prostitution.
La conclusion que vous en tirez, c'est que la pénalisation sur les mineurs, ça ne marche pas non plus. C'est ça.
Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que ça demeure un phénomène marginal par rapport à la prostitution avec adultes.
Il faut préciser aussi que la législation française stipule qu'il faut que le client ait conscience de la minorité, la prostituée. Ce qui a été tout l'enjeu du procès Zaya avec les footballeurs, qui prétextait le fait qu'il ne savait pas et qu'elle était physiquement qu'il était physiquement pas possible de déterminer sa minorité. Et il y a aussi quelque chose d'ambigu là, puisque il faut que le client sache pertinemment. Donc soit on a quelqu'un de très très jeune en face de soi, mais la prostitution des mineurs de 17 ans par exemple passe à la trappe avec ce type de loi.
Et puis pour les mineurs, donc les clients, enfin les demandeurs, ceux qui demandent ce type de relation, donc vont plutôt à l'étranger. Et c'est vrai qu'il y a donc un véritable tourisme sexuel. Donc, et là, le législateur quand même punit le Français qui à l'étranger donc va rechercher ce type de relation. Hein. Donc la loi donc va très loin, puisque c'est quand même assez extraordinaire de. C'est à peu près, je crois, c'est le seul cas où on observe que le Français peut être puni pour une infraction qu'il commet lui-même à l'étranger.
Et rappelons aussi que la plupart des atteintes sexuelles aux enfants ne passent pas par l'argent, et malheureusement, se passent avant tout en famille. Dans 80% des cas, c'est dans l'entourage familial proche.
Alors, c'est pas tellement une question, c'est plus une réaction. Au témoignage de Monsieur Parent, parce que donc à aucun moment il n'a été fait, il n'y a eu de définition autour du proxénétisme tel qu'il est appliqué en France, alors que c'est un endroit quand même particulièrement problématique, parce que donc on a eu un tableau qui dressait des méchants proxénètes face à des gentils policiers qui les traquent, tandis que si on s'attache un petit peu à la définition du proxénétisme tel qu'il est employé en France, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe et que c'est à travers ce flou que notamment beaucoup de violences policières sont exercées. Puisqu'il faut savoir que le proxénétisme ne désigne pas que des personnes qui vont exercer de la contrainte sur d'autres pour qu'elles se prostituent, mais que vont être considérées comme proxénètes toutes les personnes qui vont faciliter la prostitution d'autrui. Donc, ce qui fait que, en tant que travailleuses du sexe, nous ne pouvons pas nous associer entre nous pour travailler ensemble, que nous ne pouvons pas louer un appartement, parce que sinon nous sommes considérés comme proxénètes les unes des autres, ou que les propriétaires qui nous louent un appartement sont considérés comme proxénètes. Donc c'est quand même important de rappeler ça, puisque notamment les rafles policières auprès de, dernièrement, des prostituées chinoises se sont faites au nom de la lutte contre le proxénétisme, alors que c'était toutes des prostituées chinoises et qu'il y en avait une qui avait des papiers et qui, du coup, se servait de ces papiers pour pouvoir juste héberger d'autres femmes chinoises. Donc, lieu où il n'y avait pas de prostitution, parce qu'elles avaient vu qu'elles se prostituaient dans des caves. Et que, au nom de cette lutte contre le proxénétisme, tout le monde, avec ou sans papier, a été embarqué et que la police a confisqué l'argent de toutes ces prostituées. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça.
Oui. En fait, le travail du policier, c'est de faire appliquer la loi. Donc, c'est le législateur qui a prévu toutes ces subtilités. Donc, effectivement, vous avez raison de dire que l'exploitation de la prostitution, donc l'aide, l'assistance, ceux qui mettent en contact une prostituée, un client qui aide, etc., etc. Donc, vous avez raison, mais c'est le législateur qui a défini absolument tous ces textes. Alors, si vous considérez que le policier doit s'abstraire d'appliquer la loi parce qu'il la trouve injuste, parce qu'il n'est pas d'accord avec, etc., donc là, on part dans tous les excès. La démocratie, donc, c'est donc bien. Donc, le policier est donc, doit être dans son rôle. Donc, voilà, il a été chargé par la société de faire appliquer la loi. Et la loi, donc, c'est effectivement, les textes que vous citez sont tout à fait exacts. Et le policier est en droit, donc, et en devoir, je veux dire, de les appliquer.
Il faut appliquer la loi. Donc, vous pourrez dans ces cas-là effectivement signaler à vos collègues que la loi oblige à prendre les plaintes des prostituées qui sont violées par exemple ou qui sont victimes d'agressions.
On est très en retard déjà, donc on va être obligé de clore cette table ronde. Je remercie infiniment donc Lilian Mathieu, Lamia Misaoui et Guy Parent de nous avoir accordé ce temps. Merci.
Merci. Et
donc il y a une petite pause avant de se retrouver pour la prochaine table ronde.
Voilà, donc on se retrouve à 19h05, disons. On s'accorde un petit quart d'heure quand même de pause. Je voulais juste vous signaler que le dessin qu'on a vu tout à l'heure, c'est donc Rupert et Mulot qui l'ont fait. Et ils seront là demain à 14h30 et ils illustreront la séance donc sur les imaginaires sexuels et les rapports de force. Ils vont illustrer en direct les débats.